Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Je me serais toujours chez ma grand-mère en Touraine pour courir sur la route, pour me rattraper sur le bébé, naturellement.
Alexandra Davinel.
Et puis, alors, après ça, quand j'étais plus grande, eh bien, je me suis sauvée davantage quand mes parents étaient en vacances à la mer, à Ostend. Je me suis sauvée pour aller en Angleterre. Et puis, après ça, je me suis sauvée à 18 ans, j'ai traversé le Saint-Gothard à pied.
Ça peut pas faire de mal.
Mais quel était le but que vous poursuiviez?
Mes buts. C'est ça, dur en soi-même, partir, ces choses-là.
Partir pour partir, je sais pas.
Mais non, pour faire des choses, pour aller, quoi. Non, pour voir ce qu'il y avait plus loin.
Mais pour les consigner aussi.
Et
vous aviez envie de les
consigner. Non. Mais non.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Li Qiang, 28 septembre 1923. Mon très cher, je suis à Li Qiang, la dernière ville chinoise du nord-ouest du Yunnan. Je repars demain pour un hameau situé sur la rive droite du Mekong. Et tu te dis, après cela, où veut aller ma vagabonde? Après, je ne puis guère le savoir au juste. Je tente une nouvelle et dernière aventure. Où me conduira-t-elle? C'est un mystère pour moi. Tout ce que je puis prévoir, l'hiver étant proche, ce sont de durs, très durs moments à passer. Et l'état actuel de ma santé n'est pas précisément indiqué pour une entreprise de ce genre. Je compte laisser à ma prochaine étape quelques mots que le missionnaire t'enverra par la poste. Puis, mon très cher Mouchi, ce sera fini pour longtemps, bien des mois. Je ne crois pas pouvoir t'écrire avant mars ou avril prochain. Te voilà prévenu, ne t'inquiète pas. S'il en est ainsi, c'est que tout ira à mon gré. Sinon, tu recevrais des nouvelles plus tôt. Pense à moi de temps en temps. Tâche de te représenter une tente minuscule, seule dans un recoin de montagne, par un soir où le froid pique, où la terre durcie sonne sous les pins, un feu de bouse de vache flambant devant la tente avec une marmite de thé plantée sur trois pierres et deux tout menus voyageurs, leurs bonnets enfoncés jusqu'aux yeux, assis autour de ce primitif foyer. Dis-toi si tu veux que ce sont des fous. Mais quoi que tu puisses croire à ce sujet, tu ne pourras pas refuser quelque estime à leur intrépidité peu commune. Et s'il devait arriver que leur force les trahissant, ils ne revinssent pas de leur aventureux voyage, garde un bon souvenir aux explorateurs en miniature qui auront tenté une chose que leurs glorieux confrères, dont les noms sont célèbres, n'auraient peut-être jamais eu le cœur d'entreprendre. Mais certainement tout ira bien. C'est une longue promenade à faire, voilà tout. Aie donc l'esprit en repos et ne t'informe pas de moi, cela pourrait me gêner considérablement. Vous aurez peut-être reconnu l'extraordinaire voyageuse qui se cache derrière ces lignes. Cette grande exploratrice, c'est Alexandra Davinel. Quand elle écrit cette lettre à son mari en septembre 1923, elle s'apprête à tenter une folle aventure, traverser en secret les territoires tibétains jusqu'à la ville de Lhasa, alors interdite aux étrangers. À 55 ans, la téméraire n'en est pas à son coup d'essai. Née en France en 1868, Alexandra Davinel se révèle très vite une femme d'exception. Disciple du géographe anarchiste Élisée Reclus, elle n'a que 23 ans lors de son premier voyage à Ceylan, nom du Sri Lanka à l'époque, et en Inde. À son retour, elle mène une vie foisonnante. Elle étudie les langues orientales, se passionne pour la culture tibétaine, collabore à des journaux féministes, connaît une riche carrière musicale. En 1911, mariée, elle repart seule en Asie, désireuse d'approfondir ses connaissances sur le terrain. Elle y reste 14 ans, alternant longues expéditions et années studieuses, apprenant le tibétain, se formant auprès de grands maîtres spirituels. Elle rencontre Yongden, un jeune lama, comme on appelle les moines bouddhistes, qui devient son compagnon de voyage, son collaborateur et plus, son fils adoptif. À plusieurs reprises, Alexandra Davinel et Yongden tentent d'atteindre Lhasa en vain. Sous influence britannique, cette partie du Tibet est alors interdite aux étrangers et l'exploratrice française, toujours déboutée. Les deux complices imaginent alors un stratagème pour se jouer des frontières, se déguiser en pauvre pèlerin tibétain et passer incognito. C'est cette aventure de 8 mois d'est en ouest, réalisée entre 1923 et 1924, que relate le voyage d'une Parisienne à Lhassa, le plus célèbre des livres d'Alexandra David-Nel, paru en 1927 aux éditions Plon, et que je vous propose de découvrir. Elle a inventé sa route au milieu de territoires inconnus, conquis sa place dans le monde très masculin des aventuriers et des intellectuels d'alors. Partons ce soir sur les pas de cette pionnière. Dès le départ, le voyage vers Lhassa est placé sous le signe de la ruse. Nous sommes à l'automne 1923 dans un petit village chinois. Depuis plusieurs mois, l'exploratrice et son fils adoptif, Yongden, préparent en secret leur expédition. Pour ne pas attirer l'attention, ils prétextent une excursion botaniste dans les environs et engagent 2 porteurs pour les accompagner. Quelques jours après le départ, alors que les marcheurs sont arrivés au pied de la montagne du Kakarpo, il est temps de fausser compagnie aux porteurs. Découvrons cette scène savoureuse qui ouvre la folle entreprise. D'emblée s'en dégage la force de caractère d'Alexandra David-Nel, bien décidée à se jouer des frontières. De l'endroit où nous étions arrivés, nous dominions de très haut la vallée à l'entrée de laquelle se trouvait Londrée. Elle était absolument déserte et couverte d'arbustes épineux. Quelques éclaircies y laissaient entrevoir la petite rivière que nous avions traversée le matin. Un sentier de chèvres partant à nos pieds dégringolait la pente presque à pic, conduisant de la route vers cette jungle solitaire. L'occasion me parut favorable pour me débarrasser des 2 innocents qui ne se doutaient guère des soucis qu'ils me causaient. « J'ai les pieds enflés et meurtris, » leur dis-je. « Il m'est impossible de marcher davantage. Descendons au bord de la rivière, nous ferons du thé et je camperai là. » Les braves paysans ne manifestèrent aucun étonnement. Mes sandales chinoises, faites en cordelettes, m'avaient en effet blessé. Les hommes le savaient, ayant vu mes pieds saigner tandis que je les lavais dans un ruisseau. Nous descendîmes et je fis planter ma tente dans une minuscule clairière. Le feu allumé, je fis faire un copieux repas aux 2 hommes, tandis que Yongden et moi, nous nous efforcions d'avaler quelques bouchées, trop préoccupés par l'imminence de notre départ et la crainte de voir nos plans échouer au dernier moment pour avoir grand appétit. Dès que les braves campagnards eurent fini de manger, je commandai à l'un d'eux d'aller quérir de grosses bûches sur la montagne, car le petit bois fourni par les buissons entourant notre camp ne produisait qu'une flambée éphémère et ne suffirait pas, disais-je, à nous tenir chaud durant la nuit. Lorsqu'il fut hors de vue, j'expliquai à son camarade que puisque mes pieds blessés me rendaient les longues marches trop pénibles, j'avais décidé de m'arrêter pendant 1 semaine dans le voisinage de Londrée où j'examinerais les plantes tout à loisir. Ces services, ajoutai-je, ne m'étaient plus nécessaires. Il me serait facile de trouver un autre porteur au village lorsque je me remettrais en marche. La chose lui parut toute naturelle et le prix généreux dont je payais ces 3 journées de travail le rendit complètement heureux. Il partit immédiatement par le chemin que nous avions suivi, convaincu que le second porteur, maintenant occupé à couper du bois, demeurerait auprès de moi pour me servir. Quand ce dernier revint, je lui répétai exactement ce que j'avais dit à l'homme qui venait de me quitter. J'ajoutai seulement que puisque je ne pouvais aller immédiatement à ma destination, il devait y porter une lettre et un paquet de ma part. Le but de cet envoi était d'empêcher le porteur de s'en retourner par la route directe que suivait maintenant le villageois que j'avais congédié. Il importait pour ma sécurité que les 2 Tibétains ne se rencontrassent point avant quelques jours. Le second porteur ne vit rien que de très ordinaire dans la commission dont je le chargeais. Il s'éloigna enchanté, lui aussi, du salaire libéral qu'il avait reçu, s'imaginant que son camarade, absent pour le moment, avait été envoyé au village pour faire des emplettes et reviendrait avant la nuit pour demeurer auprès de moi pendant ma semaine de repos. Debout en face l'un de l'autre, parmi la brousse, seul, Yongden et moi, nous nous regardions en silence. La nouveauté de notre situation nous désorientait. À vrai dire, nous demeurions quelque peu ahuris. Pendant plus de 2 ans, depuis mes premiers démêlés avec les autorités tibétaines, le jeune lama et moi avions inlassablement discuté les moyens de disparaître, de nous débarrasser de notre entourage et de faire perdre nos traces pour changer de personnalité. Durant le long voyage de l'extrême sud du désert d'Erb au premier campement mongol dans le Gobi, comme sur les routes qui nous ramenaient à la frontière tibéto-yunanaise, ce thème unique avait perpétuellement alimenté nos conversations, hanté nos pensées et troublé nos rêves. Maintenant, ce que nous tenions à juste titre pour si difficile à réaliser était à notre portée. Dans quelques heures, nous partirions pour le col de Dokar qui marque actuellement la frontière du Tibet interdit. Hâtivement, je ravivais le feu. Yongden alla chercher de l'eau à la rivière et nous préparâmes du thé à la mode tibétaine. C'est-à-dire qu'après l'avoir fait bouillir, nous y ajoutâmes du beurre et du sel dans la marmite même, d'après la façon simplifiée des voyageurs pauvres. le nombre de nos ustensiles de cuisine avait été réduit dans les mêmes proportions que notre garde-robe. Le thé bu, Yongdun s'en alla. Les heures passaient, la nuit était venue. Je demeurais assise près du feu. Le restant du thé bouillait doucement sur les bûches rougeoyantes avec un glou-glou monotone. La lune colorait de teintes bleues et roussâtres la vallée sauvage et mélancolique. Autour de moi, tout était silence et solitude. Qu'avais-je osé rêver? Dans quelle folle aventure étais-je sur le point de m'engager? Je me rappelais celle qui l'avait précédée. Le souvenir me revenait de fatigues endurées, de dangers courus, d'heures où la mort m'avait frôlé. C'était cela encore et bien pire qui m'attendait, mais je ne permis pas à ces pensées lugubres de me dominer. « Arrêtez-vous ici, n'avancez pas plus loin. » Tel était l'ordre étrange qu'une poignée de politiciens occidentaux, se substituant au gouvernement de la Chine, se permettait d'intimer aujourd'hui aux explorateurs, aux savants, aux missionnaires, aux orientalistes du monde entier, à tous, sauf à leurs agents qui parcouraient librement le pays, toujours dénommé « interdit ». Quel droit avaient-ils d'ériger des barrières autour d'une contrée qui légalement ne leur appartenait même pas? On ne passe pas ici. Deux fois je me l'étais entendu dire, et je riais maintenant à ce souvenir, toute seule dans la nuit au milieu de la brousse. On ne passe pas. Vraiment? Une femme passerait. La narratrice et Yongdun se mettent alors en marche vers le Tibet interdit. Le chemin vers Lhasa est long et la prudence est de mise. Pour se faire aussi discret que possible, les deux voyageurs recourent à plusieurs stratagèmes. Ils voyagent d'abord de nuit, dormant cachés le jour. Quelques jours plus tard, ils franchissent le col de Dokar. À partir de là, la zone est interdite aux étrangers. Ils adoptent alors l'apparence de deux pèlerins tibétains, un jeune lama et sa vieille mère, vivant de la mendicité. Alexandra Davinel porte de vieux vêtements, cache ses cheveux sous un bonnet tibétain, se brunit le visage avec un mélange de braise et de cacao. Malgré toutes ces précautions, chaque rencontre est porteuse de danger. C'est dans ces circonstances que nos deux voyageurs rencontrent un groupe de pèlerins, avides de connaître les conseils du sage lama. Apprécions l'habileté et la malice de Yongdun. Nous avions quitté le Yunnan. Alors que nous cheminions, de nombreux pèlerins nous rejoignirent et assiégèrent mon jeune compagnon pour qu'il leur prédit l'avenir concernant certaines questions qui les préoccupaient. Repousser une requête de ce genre est considéré comme un coupable manque de bienveillance de la part d'un lama jugé capable de l'exaucer. Yongdun devait souvent se plier à la coutume, mais il ne manquait point d'intercaler parmi les rites habituels quelques discours très simples sur la véritable doctrine bouddhiste. Lorsqu'on le consultait à propos de malades, il ajoutait encore de bons conseils touchant la propreté et l'hygiène. Cette fois, il me fallut demeurer plus d'une demi-heure assise contre une falaise de terre sur laquelle le soleil dardait ses rayons brûlants. Le lama ne parvenait pas à se débarrasser des acharnés curieux. Comme de coutume, les questions les plus saugrenues furent posées. Enfin, une jeune fille exténuée par de longues marches s'approcha. Ses pieds étaient enflés. Elle ne pouvait poursuivre sa route que très lentement et craignait d'être laissée en arrière. Elle souhaitait ardemment savoir si elle redeviendrait alerte et en état de marcher sans peine. Sa mère, elle, insistait pour qu'on lui dévoilât le nom du démon qui avait raidi les jambes de son enfant et causé l'enflure de ses pieds. Mon fils adoptif commença par officier de façon strictement orthodoxe. « Je comprends ce dont il s'agit, » dit-il après avoir terminé les gestes rituels. « Il existe un moyen de délivrer cette fille du démon qui la tourmente, bien que ce dernier soit d'une espèce particulièrement maligne. Écoutez-moi tous, très attentivement. » afin de bien vous rappeler ce que je vais vous dire. » Les pèlerins entourèrent immédiatement mon sorcier. « Vous rencontrerez un Chöten, un monument sacré sur votre route, » déclara Yongdun. Une prophétie qui ne pouvait manquer de se réaliser car les Chöten sont nombreux au Tibet. « Vous ferez halte à cet endroit et la fille malade demeurera assise pendant 3 jours, étant bien abritée de façon que les rayons du soleil ne touchent pas sa tête. » Je vais apprendre une formule à la mère de la malade, et celle-ci, en la répétant, protégera non seulement sa fille, mais vous tous, tant que vous voyagerez ensemble. » Les pèlerins se sentaient transportés au ciel. Alors Yongdun les congédia tous, ne retenant auprès de lui que la vieille mère, pour lui communiquer la syllabe magique. « Bah !» exclama-t-il à son oreille avec le bruit d'un coup de tonnerre et en roulant des yeux terribles. Tremblante mais pleine de joie à la pensée qu'elle n'avait plus rien à redouter des mauvais esprits, la bonne femme se prosterna avec la plus sincère gratitude et s'en alla dans la direction où les pèlerins avaient disparu. Tout en montant le chemin, Elle essayait à voix basse d'imiter l'intonation de son initiateur. « Bah, bah, bah » murmurait-elle, mais bientôt « A » se changea en « E », en « I » et finit par demeurer une sorte de bêlement de chèvre angoissé par quelques soucis. « Bé, bé !» Je restais en arrière pour rire tout mon sou, la tête enfouie dans les larges manches de mon épais souplande. Quoi donc, me dit Yongden en souriant quand je le rejoignis. Cette pauvrette jouira de 3 jours de repos, d'un peu de massage et de quelques bons repas. Cela ne peut lui faire que du bien. Et puisque sa mère, qui ne l'abandonnera certainement pas, possède le secret de la précieuse formule, les autres pèlerins ralentiront le pas s'il le faut et ne regagneront pas leur pays sans elle. Moi aussi, j'estimais qu'en s'y prenant de cette façon bizarre, il avait rendu un réel service à la pauvre fille. Lorsque nous eûmes gagné le sommet de la falaise, nous vîmes des champs et tout près un village. La plupart des pèlerins y étaient déjà arrivés et quelques hommes revenant sur leurs pas accouraient vers nous. « Oh, lama !» dirent-ils à Yongden. « Quel savant vous êtes ! Vous avez bien dit que nous rencontrerions promptement un Tchoten. Le voici, et la fille est déjà assise à côté de lui. Faites-nous la grâce de boire du thé avec nous. » Nos pèlerins n'étaient point des mendiants, mais des cultivateurs aisés. Ils firent venir des pots d'eau de vie d'orge et tout en buvant se mirent à relater d'étranges miracles soi-disant accomplis par mon innocent compagnon. Chacun d'eux tenait à avoir remarqué un fait encore plus surprenant que ceux déjà décrits par ses camarades. La grandeur et le pittoresque des merveilles imaginées croissaient de plus en plus. Enfin, l'un des voyageurs déclara qu'il avait clairement vu qu'en traversant la rivière, le lama n'était point passé sur le pont, mais à côté de celui-ci, marchant dans le vide. Yongden, bien qu'il n'eût point bu d'alcool, observant toujours la règle bouddhiste qui interdit les boissons fermentées, subit cependant la contagion de l'excitation générale. À son tour, il raconta des histoires entendues dans les pays lointains qu'il avait parcourus. Je commençais à trouver que la plaisanterie allait trop loin. Tout le village s'était assemblé autour du jeune homme, et lui allait son train prophétisant, donnant des avis sur 1000 sujets et dévoilant des choses cachées. Les gens lui apportaient de menus présents en nature qu'il acceptait gracieusement. Je parvins à attirer son attention et avec une ferveur quelque peu nerveuse, je prononçais « Karma Pakeno ». C'était là une sorte d'oraison spirituelle. En ce qui nous concernait, suivant le code secret que j'avais établi, ces pieuses paroles signifiaient très vulgairement « Décampons au plus vite ». Quelque peu vexé d'abandonner son triomphe, Yongden déclara à son entourage qu'il allait prendre congé et continuer son chemin. Tous protestèrent. Mieux valait, ajouter les excellents villageois, passer la nuit parmi eux qui nous donneraient un bon gîte. Mon lama était très tenté d'accepter, je le compris. Mais au regard implorant qu'il lança dans ma direction, je répondis par un « Karma Pakeno » d'une ferveur plus ardente encore, dont l'accent émut quelques-uns de ceux qui nous entouraient et les fit répéter dévotieusement « Karma Pakeno, Karma Pakeno ». Nous partîmes enfin et je me sentis soulagé en retrouvant le silence et la solitude de la campagne.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
They came from the east, they came from the west, from the Kashmir lakes and the Asian steppes, the Chinese court and the Kublai Khan, and they headed down to Lassitan. Lassitan, the Lassitan, it's cold and dry and 2 miles down, but you won't see the Dalai Lama around if you're heading down to Lassitan. They came from the east, they came in the night, they came with guns and dynamite to free the peasants from their chains and make damn sure they don't rise again. But if you won't toe the party line, best effect and say goodbye. Become a refugee without a home and never return to Lassitan. Lassitan, to Lassitan, it's cold and dry and 2 miles down, but you won't see the Dalai Lama around if you're heading down to Lassitan. Mm-hmm.
from the west, from the Kashmir lakes and the Asian steppes. They said their prayers and kissed the ground, and they headed down to Lassitan, to Lassitan, to Lassitan. It's cold and dry and 2 miles down, but you won't see the Dalai Lama around if you're heading down to Lassitan.
Retrouvons nos voyageurs un peu plus loin, à l'orée d'un col. Nous sommes en décembre 1923, 2 mois après le départ. Alexandra Davinel et Yongden ont vu les paysages changer. Les villages s'espacent, les vallées riantes laissent place aux montagnes. La température chute. Sur ce territoire quasi vierge, les deux marcheurs entament l'ascension d'un dangereux col sans être sûrs qu'il soit praticable. La narratrice nous livre les émotions mêlées qui la saisissent alors entre vigilance et contemplation. Soudainement, un formidable paysage, qu'enfermé dans la vallée nous n'avions pu entrevoir, se révéla à nous. Comment exprimer ce que je ressentis à ce moment? C'était un mélange d'admiration et d'angoisse. J'étais à la fois émerveillée, stupéfaite et terrifiée. Imaginez une immensité couverte de neige, un plateau terminé très loin, à notre gauche, par un mur vertical de glaciers glauques et de pics drapés de blancheur immaculée. À notre droite, une large ondulation de terrain, bordée par 2 chaînes basses, montait en pente douce. En face de nous, le vaste plateau s'élevait aussi, graduellement, et s'évanouissait dans le lointain sans que nous puissions distinguer s'il conduisait au sommet du col ou à un autre plateau sans issue. Nulle description ne peut donner une idée d'un tel décor. C'était un de ces spectacles écrasants qui agenouillent les croyants, comme devant le voile cachant la face suprême. Mais Yongden et moi, dès que notre premier émerveillement se fut calmé, nous regardâmes simplement l'un l'autre en silence. Les mots étaient inutiles. Nous avions clairement compris la situation. Dans quelle direction devions-nous poursuivre notre route? Nous n'en savions rien. Le col pouvait tout aussi bien se trouver en face de nous qu'à notre droite. L'après-midi était déjà très avancé. Une erreur de direction nous ferait errer toute la nuit sur ces sommets glacés. Et notre expérience d'alpiniste au Tibet datait d'assez loin pour nous rendre conscients du danger que nous courions. Bien que nous fussions dans les jours les plus courts, il nous restait encore pas mal de temps avant le crépuscule et heureusement la lune brillerait toute la nuit. Nous n'avions encore aucune raison d'être véritablement alarmés. La chose importante était de ne pas nous tromper de route et de nous dépêcher. Je regardais encore une fois à ma droite, inspectant le paysage de ce côté, puis je décidai. Marchons droit devant nous. Le piquant de l'aventure m'excitait et quoique la couche de neige devint de plus en plus épaisse, je progressais assez rapidement. Dominé par le désir d'atteindre le col ou de découvrir si nous étions engagés dans une fausse direction, je devançais rapidement Yongden, plus lourdement chargé que moi. Après avoir parcouru une assez grande distance, voulant m'assurer que le jeune homme ne s'attardait pas, je me retournai dans sa direction. Jamais je n'oublierai le tableau qui surgit devant moi. Très loin, parmi la silencieuse immensité blanche, un minuscule point noir se mouvait lentement, semblable à un insecte lilliputien grimpant avec effort le long de l'énorme plateau incliné. Plus qu'aucun des nombreux sites grandioses et terrifiants que j'avais contemplés jusque-là au pays des neiges, ces glaciers géants et cette vaste étendue morne soulignaient la disproportion écrasante existant entre la fantastique région des hautes cimes et les chétifs voyageurs qui avaient osé s'y aventurer seuls au cœur même de l'hiver. Un inexprimable sentiment de pitié m'envahit. C'était moi qui avais amené là le fidèle compagnon de tant de mes randonnées téméraires. Pouvait-il se faire qu'il périt dans ces solitudes, comme ces pèlerins égarés dont l'on rencontre parfois les corps raidis sur les hauts sommets du Tibet? Une telle fin était inadmissible pour lui. Je trouverai le chemin. j'en avais le devoir. Sans aucun doute, nous nous tirerions de ce pas difficile comme nous l'avions fait de bien d'autres. C'était moins que jamais le moment de s'abandonner à une émotion inutile. Déjà le soir atténuait la blancheur aveuglante du paysage. Nous aurions dû à cette heure être descendus loin sur l'autre versant. Je me remis en marche, bondissant parfois en m'aidant de mon long bâton ferré, avançant je ne sais trop comment mais sans arrêt. Enfin, je distinguais un monticule couvert de neige. Il en émergeait un buisson de branches sèches portant de petites banderoles raidies et frangées de glace qui cliquetaient au vent avec un bruit sec. C'était le Lhasa, le sommet du col. Je fis des signaux à Yongden qui m'apparaissait plus lointain et plus minuscule que jamais, semblant près de se dissoudre dans l'ombre crépusculaire. Il ne les aperçut pas tout d'abord, mais après quelques instants, je le vis agiter son bâton. Il avait compris que j'étais arrivé.
L'altitude de ce col n'est pas exactement connue, il ne figure pas sur les cartes.
Alexandra Davinel.
Cette région du Tibet n'avait pas encore été explorée. J'étais le premier voyageur blanc qui passait par là. L'altitude du col peut avoir 5000 mètres, 4800, quelque chose comme ça. Nous marchions un peu au hasard. Sachant que nous devions monter, eh bien nous montions. Le paysage était entièrement blanc, sans la moindre note de couleur. Il était blanc et démesuré. Je crois que je n'ai jamais aussi profondément senti ma petitesse, la nullité de ma personne, que devant ce paysage d'aspect surhumain.
Quelques heures plus tard, dans la nuit glacée, Alexandra Davinel tente une étrange expérience. Le col franchi, nos deux voyageurs réunis marchent sans s'arrêter pour ne pas se refroidir. Au moment de bivouaquer, la narratrice a recours à une pratique apprise de ses maîtres tibétains, le tummo, ou l'art de produire de la chaleur par la force de la méditation. Découvrons avec elle cette méthode fascinante. Nous marchâmes jusqu'à 2h du matin. Il y avait 19h que nous étions en route, sans nous être arrêtés un moment, sans avoir mangé ni bu. Un vent glacial descendant des sommets neigeux balayait la vallée. Je décidai que nous planterions notre tente entre des broussailles, près d'une rivière. Le plus pressé était d'allumer du feu. Je laissai tomber à terre la bouse de yak sèche en guise de combustible et Yongden tira le briquet et ses accessoires de la petite bourse spéciale qu'il portait attachée à sa ceinture. Mais pas une étincelle ne jaillit du silex. Le jeune homme s'acharnait en vain. Inspectant la bourse, il s'aperçut qu'elle était humide. Elle s'était probablement mouillée ainsi que le briquet qu'elle contenait tandis que nous traversions les champs de neige en montant vers le col. La situation était sérieuse. Par cette nuit de décembre, nous courions grand risque de prendre une pneumonie ou quelque autre maladie analogue. « Révérende dame, » me dit soudain Yongden en déposant sur le sol le petit sac contenant le briquet inutile, « vous êtes une initiée en tummo reskyang et vous pouvez vous passer du feu. Réchauffez-vous et ne vous occupez pas de moi. Je vais sauter et courir pour me tenir le sang en mouvement. N'ayez crainte, je ne prendrai pas mal. » Il était vrai que j'avais étudié auprès de deux maîtres tibétains l'art singulier d'accroître la chaleur du corps. Pendant longtemps, les histoires rapportées dans les livres tibétains et celles que j'entendais raconter autour de moi sur ce sujet m'avaient fortement intrigué. Je conçus un vif désir de voir par moi-même ce qui pouvait exister sous ces récits que j'étais tenté de tenir pour de pures fables. Avec les plus grandes difficultés, après avoir fait montre d'une persévérance obstinée dans mon désir d'être initié et m'être résigné à subir un certain nombre d'épreuves passablement fatigantes et quelquefois dangereuses, je réussis enfin à apprendre et à voir. Je vis quelques-uns de ces maîtres en l'art de tummo assis sur la neige, nuit après nuit, complètement nus, immobiles, abîmés dans leur méditation, tandis que les terribles rafales de l'hiver tourbillonnaient et hurlaient autour d'eux. Je vis à la brillante clarté de la pleine lune l'examen fantastique passé par leurs disciples. Quelques jeunes hommes étaient conduits au cœur de l'hiver sur le bord d'un lac ou d'une rivière et là, dépouillés de tout vêtement, ils séchaient à même leur chair des draps trempés dans l'eau glaciale. Un drap devenait-il à peine sec qu'un autre le remplaçait aussitôt. Raidis par le gel dès qu'ils sortaient de l'eau, ils fumaient bientôt sur les épaules du candidat comme s'il eût été appliqué sur un poêle brûlant. Mais mieux encore, j'appris le genre d'entraînement qui permet d'accomplir ces tours de force bizarres et curieuse de pousser l'expérience jusqu'au bout, je m'y exerçais moi-même pendant 5 mois d'hiver, portant la mince robe de coton des novices à 3900 mètres d'altitude. Retournez à l'emplacement du camp et ramassez autant de bouses sèches et de menues branches que vous le pourrez, dis-je au lama. L'exercice vous empêchera de vous refroidir. Je vais m'occuper du feu. » Il obéit, convaincu que le combustible serait inutile, mais une idée m'était venue. Le briquet et ses accessoires, le petit silex et la mousse pour recevoir les étincelles, sont froids ou humides, pensais-je. Ne pourrais-je pas les remettre en état de fonctionner en les réchauffant sur moi, de la même manière que je séchais des draps mouillés quand j'étudiais? Il n'en coûtait rien d'essayer. Je plaçais le briquet, le silex et une poignée de mousse sous mes vêtements et commençais l'exercice prescrit. Je demeurais tranquillement assise, le sommeil me gagnait peu à peu. Mon esprit, néanmoins, restait entièrement concentré sur l'idée de tout mot et, machinalement, continuais dans l'état de demi-rêve la pratique commencée. Bientôt, je vis des flammes s'élever autour de moi. Elles grandirent de plus en plus, m'enveloppèrent, courbant leur langue rouge au-dessus de ma tête. Je me sentais pénétré par un délicieux bien-être. Un bruit pareil à celui du canon me fit sursauter. La glace se fendait sur la rivière. Instantanément, les flammes qui m'entouraient s'abaissèrent et disparurent comme si elles rentraient sous terre. J'ouvris les yeux. Le vent soufflait plus violemment encore qu'auparavant. Mon corps brûlait. Le résultat du rite ou un accès de fièvre, je ne m'attardais pas à rechercher ce qu'il en était. Le briquet allait faire son devoir, j'en étais convaincu. Je continuai mon rêve bien que je me fusse levé. Je sentais le feu sortir de ma tête, s'échapper de chacun de mes doigts. Je plaçai une poignée d'herbe sèche sur le sol, un tout petit fragment de bouse très sèche par-dessus. Je saisis un peu de mousse entre mes doigts et je frappai le silex. Une vive étincelle en jaillit. Je frappai de nouveau. Une nouvelle étincelle s'échappa. Une autre. Un feu d'artifice en miniature. Le feu est allumé. Une petite flamme enfant avide de se nourrir, de grandir et de vivre. J'ajoutai les brindilles et elle bondit plus haute. Lorsque Yongden revint avec une forte quantité de bouse sèche et quelques branches sous son bras, il fut joyeusement étonné. « Comment avez-vous fait ?» me demanda-t-il. « C'est le feu de Tumo, » répondis-je en souriant. Les neiges tibétaines réservent d'autres dangers aux voyageurs. Quelques jours passent. Les deux marcheurs cheminent lentement en franchissant le col des nids. Dans cette région isolée, la neige complique l'orientation et les provisions diminuent. Retrouvons nos vaillants voyageurs un matin de décembre 1923, quelques jours avant Noël. Ils se réveillent dans la caverne de terre où ils ont trouvé refuge la veille et s'apprêtent à vivre l'un des épisodes les plus critiques de leur aventure. Voyons leur réaction face à l'adversité. À notre réveil, la neige tombait toujours et la hauteur du mur qui s'était formé devant notre caverne montrait qu'elle n'avait probablement pas cessé de toute la nuit. Je décidai néanmoins de tenter une reconnaissance vers l'extrémité de la vallée et, pour être plus agile, de laisser nos sacs dans la caverne. Nous repartîmes. Il continuait à neiger de la même façon lente, inexorable, qui persistait depuis plus de 40 heures. Nous nous heurtâmes à des barrières infranchissables. Soudain, j'entendis un cri derrière moi. En voulant couper au plus court, Yongden venait de glisser dans un ravin. Ce dernier, heureusement peu profond, mais encaissé entre des murs presque droits, n'était pas d'un abord facile. Quelques minutes s'écoulèrent avant que j'eusse rejoint mon pauvre compagnon. Étendu dans son costume monastique en guenilles, quelques gouttelettes de sang teintant la neige autour de lui, Yongden aurait pu fournir à un peintre le sujet d'un tableau dramatique. « Ce n'est rien, rien du tout, » dit-il immédiatement, désireux de me rassurer. « Ma tête a dû porter sur une pointe de rocher. La peau est un peu coupée, mais il n'y a aucun mal sérieux. Je le sens. Ne vous effrayez pas. » Le choc m'a seulement un peu étourdi. Alors il voulut se lever, laissa échapper un gémissement tandis qu'il pâlissait et fermait les yeux, puis murmura « Oh, mon pied !» Il essaya une seconde fois de se mettre debout, mais n'y réussit pas. « Essayez de sortir du ravin en vous aidant des genoux, des mains. Comme vous le pourrez, dis-je. Je vous soutiendrai. Ensuite, je tâcherai de vous porter. » Nous devons retourner à la caverne et là nous examinerons ce qu'il convient de faire. Il nous fallut des heures pour regagner notre abri. Une fois là, je massai la cheville déjà enflée du pauvre invalide et la bandai avec sa ceinture. Je ne pouvais rien de plus. De même que la veille, nous n'avions point de feu et grelottions étendus sur le sol profondément gelé. La neige mangée en cours de route pour nous désaltérer et l'eau glacée bue avait encore aggravé la sensation de froid intérieur qui nous tourmentait. Cependant, n'eût été l'inquiétude que me causait l'état de mon fils adoptif, j'aurais trouvé du charme à notre situation singulière. si puissante était même pour moi la séduction de cette nuit de neige au cœur des montagnes inviolées, qu'elle triompha de mes préoccupations comme de la peine physique que je ressentais. Longtemps, presque jusqu'à l'aube, je demeurai assise, immobile, savourant les délices de mon isolement dans le calme parfait, le silence absolu de cette étrange contrée blanche, l'esprit détaché de tout, plongé dans une sérénité indicible. Le surlendemain, Yongden pouvait se tenir debout. Je ficelai son sac et le mien en un seul ballot dont je me chargeais et j'aidais le jeune homme à marcher. Nulle trace de culture ni de bétail ne s'apercevait. Nous avions abandonné tout espoir d'atteindre un village. La nuit vint, la neige se remit à tomber. Sous le ciel d'un noir d'encre, le paysage nocturne s'illumina alors de façon étrange. Une lumière diffuse, pâle et morne, parut soudre du sol tout blanc et s'échapper des arbres chargés de neige. Blanc de la tête aux pieds, nous continuons, en boitant, notre marche taciturne parmi ce décor singulier. Peu à peu, Yongden s'était laissé distancer. Je poursuivais ma route seul, plongé dans une sorte d'hébétement sans tendre à aucun but. Village, cabane, abri de n'importe quelle sorte semblaient également hors de notre portée. Nous coucher dans la neige épaisse était impossible, alors quoi ? Un choc soudain me tira de ma stupeur. Je m'étais heurté à quelque chose de dur. Je tapais l'objet. C'était une pièce de bois, dépassant à l'extrémité d'une palissade rustique. Une palissade ? Un camp d'été de pasteurs, alors ? Celui dont on nous avait parlé ? Nous étions dans la bonne voie et avions un abri pour la nuit. Notre plus agréable découverte fut celle d'une provision de combustible. Bientôt, Yongden et moi nous fûmes installés, chacun d'un côté du foyer, un grand feu brûlant entre nous. La chaleur qui se répandait dans la maisonnette me semblait délicieuse après les nuits glaciales passées dans la caverne. Les yeux clos, silencieuses, j'en savourais la caresse.
Dans vos voyages, vous n'avez jamais été arrêté par les neiges.
Vraiment arrêté, non, puisque j'ai fini par passer. Mais mon fils adoptif et moi, nous avons pourtant failli être arrêtés définitivement. Et au lieu d'arriver à Lhasa, nous aurions bien pu arriver plus loin, dans un autre monde.
Et vous avez réellement failli périr.
Tiens, cela peut arriver à tous les explorateurs. Cela n'a rien d'extraordinaire.
Mais les gens de votre caravane étaient-ils nombreux ?
Quelle caravane ? J'ai toujours eu horreur de voyager en groupe. Quand je voyageais à cheval, j'avais parfois deux ou trois domestiques. Mais cette fois, nous étions à pied et seuls.
Les provisions, le matériel de campement.
Les provisions ? Mais nous en portions un peu sur notre dos. Matériel de campement ? Mais il n'y en avait pas. Nous nous abritions pour dormir au pied d'un arbre, sous un roc, selon ce que nous trouvions sur notre route.
Va, ce monde je te le donne. Va, et jamais n'abandonne. Vrai, qu'il n'est pas à l'image des rêves d'un enfant de ton âge. Je sais, le monde a des accents. Souvent, il nous montre les dents. Mais, je l'aime comme je t'aime. Alors, je voudrais bien que tu l'aimes. Tu en es le vivant poème. Pars, le monde est un espoir. L'espoir jamais ne l'abandonne. Oui, le monde est notre histoire. De matin clair et de nuit noire. Je sais que le monde a des armes qui souvent nous désarment, mais il t'aimera comme tu l'aimes, alors il faudra bien que tu l'aimes. La vie est un poème que tu écriras toi-même. Oui, va, ce monde va le voir, va. Jamais ne perds l'espoir. Oui, dans ce monde va te voir. Traverse, traverse, traverse les miroirs. Je sais que le monde a des dents. Comme nous, le monde se défend. mais il t'aime comme tu l'aimes. Alors, je voudrais bien que tu l'aimes. La vie est un poème, oui, c'est un long je t'aime. Un vivant poème que tu finiras toi-même. Tu es le vivant poème. 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 Vivant. Vivant, 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 c'est ça qui est important, vivant, vivant. Tu es le vivant.
Je suis arrivé à Lhassa à l'état de squelette, confie l'aventurière à son mari dans une lettre de février 1924. Après 4 mois de marche, c'est cette fois-ci en pleine tempête de sable que nos 2 faux pèlerins entrent enfin dans la cité prodigieuse. Ils trouvent refuge à la lisière de la ville dans une modeste maison partagée. L'occasion pour Alexandra David-Nel d'approcher un peu plus le quotidien des Tibétains. Parmi ses visites, l'orientaliste tient à admirer le Potala, monument emblématique et demeure du Dalai Lama. Mais quand Alexandra Yongden, toujours incognito, pénètre l'enceinte sacrée, c'est une scène comique qui s'amorce. Si beau que soit le paysage encadrant Lhassa, il ne retiendrait cependant pas l'attention si le Potala ne lui conférait pas un caractère tout à fait particulier. Tandis que je me dirigeais vers le palais du souverain lamaïste, il me vint à l'idée qu'il serait plus sûr pour moi d'y pénétrer avec un groupe de pèlerins ou d'autres visiteurs. L'authenticité évidente de véritables Tibétains devait couvrir la mienne et écarter les doutes. Je remarquai alors 2 hommes vêtus de la robe de grossier tissu des villageois qui flânaient non loin de la première porte d'entrée. « D'où êtes-vous ? » s'informa mon jeune ami, affectant l'air protecteur d'un citadin né dans la capitale parlant à des hommes des champs. L'un des interpellés énonce le nom d'un village et nous informe que son compagnon et lui sont venus vendre du grain et, ayant terminé leurs affaires, songent à s'amuser un peu dans la grande ville avant de retourner chez eux le lendemain. « Vous allez visiter le Potala ?» continue Yongden d'un ton qui semble bien plutôt affirmer une chose certaine que poser une question. Et avec l'autorité d'un des moines du Potala, il leur énumère les mérites attachés à cette pieuse visite. Puis, changeant de ton, la voix émue, le regard magnétique, le bon apôtre ajoute que, puisque les circonstances les ont réunis, il est disposé à les guider de temple en temple, à leur nommer les déités dont les statues s'y trouvent et à leur raconter les histoires. Une telle heureuse chance ne se rencontre pas souvent, les 2 compères n'en revenaient pas et ils suivirent le lama, le cœur débordant de reconnaissance. Derrière eux, en pleine confiance, je montais les longues volées d'escalier. Les 3 hommes passèrent les premiers. Je m'apprêtais à entrer humblement à mon tour lorsqu'un garçon, un bambin de 10 ou 12 ans, pareil à un gnome enroulé dans une robe de moine 3 fois trop grande pour sa taille, m'arrêta et très brutalement m'ordonna d'enlever mon bonnet. Ce genre de coiffure n'était pas admis à l'intérieur du Potala. La chose revêtait pour moi toutes les apparences d'une catastrophe. Depuis longtemps, ce misérable bonnet ombrageait ma face, la cachait en partie et constituait une protection contre les possibilités d'être trop aisément dévisagé et reconnu. Il y avait pire. Les bâtons d'encre de Chine dont je me servais pour teindre mes cheveux s'étaient usés bien avant que j'eusse atteint Lhassa. Mes cheveux avaient donc repris leur coloration brune naturelle et ne s'assortissaient plus au noir jet de mes fausses nattes en crin de yak. Ces dernières s'étaient aussi graduellement amincies. Leur grosseur maintenant ne dépassait guère celle d'une queue de rat. Nul clown dans aucun cirque du monde n'avait jamais exhibé une tête plus étrange et plus comique que celle que j'allais offrir au regard des gardes, des sacristains et des centaines de dévots circulant à travers le palais. Cependant, nul moyen ne s'offrait à moi d'échapper à cette épreuve. J'enlevai mon bonnet et rejoignis mes compagnons. Yongden s'était un peu attardé pour m'attendre. Dès qu'il m'aperçut, frappé de terreur, il ouvrit une bouche immense et à grand-peine retint un cri de détresse. « Qu'avez-vous fait ? » me dit-il d'une voix angoissée. « Qui vous a pris votre bonnet ? » Il ne m'est pas permis d'entrer avec cette sorte de coiffure, répondit Jean Hâte. Vous avez l'air d'un démon, continua-t-il, tremblant et désespéré. Vous allez être le point de mire de tout le monde. Je me sentais prêt à pleurer d'énervement. L'air complètement indifférent des deux villageois me réconforta heureusement un peu. Ils semblaient ne rien percevoir de singulier en moi et écoutaient attentivement leur guide qui leur relatait avec une volubilité quelque peu fébrile de multiples histoires concernant les dieux, les saints lamas et les Dalai Lama d'antan. D'autres gens se mirent bientôt à la file pour écouter et bientôt un petit cortège fut formé. Ceux qui le composaient s'extasiant sur le savoir illimité du bienveillant lama qui daignait les instruire. Je suivis, confondu parmi la foule qui se bousculait le long des corridors, des escaliers-échelles et des étroites portes des temples, et nul n'accordait un regard à ma coiffure extraordinaire. J'étais la seule à avoir conscience de mon étrangeté, et peu à peu, me rassurant, je commençais à goûter la plaisanterie. Quant à Yongdun, son premier effroi s'était apaisé aussi, mais il n'osait guère tourner la tête de mon côté de peur d'éclater de rire à mon aspect. À la fin, toute notre bande atteignit la terrasse supérieure du palais, occupée par les pavillons chinois et leurs toits rutilants. Du haut du grand escalier extérieur, je regardais longuement le paysage magnifique offert par Lhasa étendu à mes pieds, avec ses temples et ses monastères, pareil vu de si haut à une mosaïque blanche, rouge et or. Dans un site semblable, des peuples occidentaux bâtiraient, pensais-je, une cité magnifique. Et mentalement, j'évoquais de larges avenues, des monuments, des parcs occupant l'espace devant moi. Mais doucement impérieuse, la réelle Lhasa, minable et fastueuse à la fois, se superposait sur le mirage de la ville moderne et le dissipait. Que les dieux du Tibet lui épargnent les gratte-ciels et les jardins savamment dessinés. Assise entre ces montagnes nues parmi les sables et les galets, la Rome lamaïste sous son ciel lumineux est belle et grande à sa manière. Nous voici au terme du parcours. Après 14 ans passés en Asie, Alexandra David-Nel rentre en France en 1925 et s'établit à Digne. Célébrée pour cette aventure hors du commun, cette pionnière transmet ses notes de voyage et ses analyses dans de nombreux livres et conférences. Elle adopte officiellement Yongdun. Ils écrivent plusieurs ouvrages à quatre mains. La tibétologue meurt centenaire en 1969, au terme d'une vie riche et libre. Infatigable, elle demande à 100 ans passés le renouvellement de son passeport, espérant découvrir les États-Unis. Pour conclure, écoutons l'épilogue du voyage d'une Parisienne à Lhasa. Si elle n'a rien perdu de sa malice, Alexandra David-Nel nous offre aussi une méditation inspirante sur le sens du voyage. Je quittais Lhasa aussi paisiblement que j'y étais arrivé, sans que personne ne se fût douté qu'une étrangère y avait vécu au grand jour pendant 2 mois. Il s'en fallait de beaucoup pour que mon voyage fût terminé. J'entrepris une nouvelle série de pérégrinations, de multiples lieux de pèlerinage et maints autres endroits. Enfin, un soir, j'arrivais à Gyantse. Gyantse est la 3e ville du Tibet, située sur la grande route de l'Inde à Lhasa. Les Anglais y ont établi un poste avancé. Lorsque je me présentais au bungalow pour y demander l'hospitalité, le premier Européen qui me vit resta muet de stupéfaction en entendant une Tibétaine lui adresser la parole en anglais. Toutes les chambres de la maison se trouvant occupées, je me rendis au fort. Sous ce nom un peu trop pompeux est désigné un enclos fortifié où demeure un agent commercial, quelques officiers dont un médecin et une petite garnison de soldats hindous. Là sont aussi logés le bureau de la poste et du télégraphe, un médecin indigène et d'autres services. Mon arrivée fut accueillie par le même étonnement. Lorsque je racontais que j'arrivais de la Chine à pied, que j'avais voyagé pendant 8 mois au Tibet, traversé des régions inexplorées et passé 2 mois à Lhasa, nul ne trouva tout d'abord un mot à me répondre. Littéralement, personne n'en croyait ses yeux. Un jour, sans doute, des express transasiatiques emporteront par là des touristes confortablement installés dans des trains de luxe. Mais alors, une grande partie du charme de ce voyage aura disparu. Pour ma part, je me réjouis d'être allé de Ceylan à la Mongolie avant que ce temps ne soit venu.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Valérie Lavalard à la technique. Elle a été préparée par Leila Kourousselikoua, Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.